Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Chers amis, nous commençons la leçon numéro 12, donc qui sera datée du 14 au 20 mars 2009, avec pour titre...
Eh bien, il s'agira des bénédictions liées au don de prophétie. Il y a un verset à mémoriser qui nous est donné, comme chaque semaine, pour commencer. Et il se trouve dans le prophète Amos, chapitre 3 et verset 7. « Ainsi, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Et quelques questions clés maintenant.
Pourquoi et dans quel but Dieu a-t-il fait d'Israël un peuple particulier ? Comment les enfants et les jeunes étaient-ils éduqués en Israël à l'époque de l'Ancien Testament ? Quels conseils de santé Dieu a-t-il donné aux Israélites ? Pourquoi ces derniers inscrivaient-ils la parole de Dieu sur le fronton de leur porte? Et comment le Seigneur s'est-il servi du don de prophétie pour en faire bénéficier l'Église?
Tout au long de l'histoire biblique, le Seigneur s'est servi des prophètes, y compris ceux qui ne font pas partie des auteurs de la Bible, afin d'encourager, d'édifier et d'avertir son peuple. Même si les messages des prophètes étaient impopulaires, même si leur motivation était mal comprise, ces personnes n'avaient qu'un seul but à l'esprit, bénir l'Église de Dieu et lui faire du bien. Et il en a été de même pour Ellen White et pour le don prophétique dont elle bénéficiait.
Nous examinerons cette semaine certains des bienfaits que le don de prophétie a apporté au peuple de Dieu. L'Église adventiste du septième jour, en tout cas, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existerait sans doute pas sans les directives que Dieu lui a données par l'esprit de prophétie.
Et l'esprit de prophétie, ce sont les révélations qui lui ont été faites au cours de sa vie. Nous allons aborder cette étude avec le dimanche 15 mars 2009, et là il s'agira de...
La mission.
La mission. Nous allons voir pourquoi Dieu a fait d'Israël un peuple particulier. Et un premier verset nous est donné dans Deutéronome, chapitre 7, les versets 7 et 8.
Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude de la main du Pharaon, roi d'Égypte.
Un autre texte se trouve dans le prophète Ésaïe, verset chapitre 49 et le verset 6, et voici ce texte. Il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob » et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre.
Dieu a choisi les Israélites pour en faire ses témoins. Toutes les nations de la terre devaient profiter des bénédictions qu'il accorderait à son peuple. Israël devait chanter ses louanges, proclamer sa gloire parmi les nations, et être une lumière pour les païens. Disons quelle est la mission de l'Église chrétienne. Comment s'en acquitte-t-elle ? Dans Matthieu 28, versets 19 à 20.
Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
L'Église chrétienne a connu deux grands moments d'expansion au cours de son histoire. Le premier, au moment de sa création, au 1er et 2e siècle, le second, au 19e siècle, aussi appelé siècle missionnaire. À la suite du réveil qui s'est produit au XVIIIe siècle et au début du XIXe, l'Église chrétienne a fondé de nombreuses sociétés bibliques et missionnaires en Europe et en Amérique. Entre 1800 et 1900, elle est passée de 18% à 34% de la population mondiale.
Dans les premières décennies de son histoire, l'Église adventiste du septième jour pensait qu'en prêchant simplement aux immigrants d'Amérique du Nord, elle obéissait au commandement de Dieu lui enjoignant d'enseigner à toutes les nations. Mais en 1871, Ellen White écrivait « Les jeunes gens devraient apprendre les langues étrangères pour servir Dieu en communiquant sa vérité salvatrice aux autres nations. »
Puis en 1874, elle a fait un rêve qui lui a donné la conviction qu'il fallait transmettre au monde le message du troisième ange. Dans ce rêve, on lui disait « Vos idées sur l'œuvre à accomplir, à notre époque, sont trop limitées. Mon message doit être adressé avec puissance à toutes les régions du monde, en Oregon, en Europe, en Australie, aux îles de l'océan, à toutes les nations, langues et peuples. Votre foi est limitée, elle manque de force. » L'œuvre à accomplir est beaucoup plus vaste que vous ne l'imaginez.
La même année, J.N. Andrews devenait le premier missionnaire officiel de l'Église adventiste du septième jour. Accompagné de ses enfants, il est parti pour la Suisse. 3 ans plus tard, la famille de John Matheson était envoyée en Scandinavie. Aujourd'hui, les adventistes du septième jour ont implanté l'œuvre de Dieu dans plus de 200 pays sur les 229 reconnus par les Nations Unies.
L'évangélisation mondiale ne devrait-elle pas concerner tout d'abord celle de ceux qui nous entourent ?
Eh bien, c'est une question, bien sûr, il faut y réfléchir. Il est certain qu'on doit peut-être commencer par les personnes qui nous entourent et continuer ensuite plus loin. Voici au lundi 16 mars 2009, et là il sera question d'un sujet important qui est
l'éducation.
Et nous allons voir comment les enfants d'Israël étaient élevés à l'époque de l'Ancien Testament et quels principes essentiels peut-on dégager concernant la dimension spirituelle que devrait avoir toute éducation digne de ce nom. Et à ce sujet, nous avons 2 textes à vous proposer. Tout d'abord dans la Genèse, chapitre 18, les versets 18 et 19.
Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Nous continuerons dans Deutéronome 6, versets 4 à 7.
Écoute, Israël. L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles, je te les donne aujourd'hui, elles seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras.
Les enfants hébreux apprenaient de leur père ce que Dieu avait fait pour son peuple par le passé. Comment ils devaient vivre en sa présence et quelles étaient ses promesses pour l'avenir. Ils apprenaient également les savoir-faire qui leur permettaient de trouver leur place au sein de leur peuple. Il s'agissait donc d'une éducation à la fois d'ordre pratique et d'ordre spirituel et religieux.
Dans les premiers temps du mouvement adventiste, il y eut plusieurs initiatives privées de la part de nos pionniers pour essayer de créer une école destinée aux enfants d'adventistes, mais aucune ne dura bien longtemps.
Puis au début de l'année 1872, Ellen White reçut une vision sur les principes d'une bonne éducation. À partir de cette vision, elle écrivit 30 pages dans lesquelles elle déclarait, entre autres, « Nous avons besoin d'une école. ou ceux qui débutent dans le ministère puissent au moins étudier les notions fondamentales du savoir et apprendre de façon plus parfaite les vérités de la parole de Dieu pour le temps présent.
En mai 1872, le comité de la Conférence générale a accepté la responsabilité d'une école d'église à Battle Creek, dans le Michigan. Le 3 juin, la première école officielle des Adventistes du septième jour ouvrait ses portes avec un effectif de 12 élèves. 2 ans plus tard, l'institut universitaire nouvellement créé à Battle Creek comptait 100 élèves inscrits.
Aujourd'hui, plus de 6000 écoles, instituts universitaires et universités adventistes accueillent plus d'un million d'élèves dans le monde entier.
Donc une œuvre importante qu'est l'éducation. Et nous terminons ainsi cette journée. Voici maintenant le mardi 17 mars 2009.
Avec pour titre la santé. Dieu a dit aux Israélites, si vraiment tu écoutes le Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. Lisons quelques-uns des conseils de santé donnés par Dieu aux Israélites.
Et quelques textes nous sont proposés. Tout d'abord, dans le Lévitique, chapitre 7, nous lirons les versets 22 à 24.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, dis-leur, vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne devez pas en manger. » Nous continuerons dans Lévitique 7, versets 26 à 27.
Vous ne consommerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail, partout où vous habiterez. Toute personne qui consommera du sang quelconque sera retranchée de son peuple. Nous continuons avec le Lévitique, chapitre 11, les versets 1 à 4.
L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux Israélites, dites-leur, parmi tous les animaux qui sont sur la terre, voici ceux dont vous mangerez. Vous mangerez de tout animal qui a le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. Mais voici parmi ceux qui ruminent ou qui ont le sabot fendu, ceux dont vous ne mangerez pas. Le chameau qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Nous continuerons au verset 5 à 8.
Le daman qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Le lièvre qui rumine mais qui n'a pas le sabot fendu, vous le considérerez comme impur. Le porc qui a le sabot fendu et le pied fourchu mais qui ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas à leurs cadavres, vous les considérerez comme impurs. Et un dernier texte pour cette journée, c'est dans Lévitique chapitre 13, les versets 45 et 46.
Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et il aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp.
Au Moyen-Âge, la lèpre et la peste ont semé la terreur pendant des siècles. Ces fléaux ont cessé lorsque les dirigeants d'église se sont rappelés que, dans la Bible, les lépreux étaient exclus de la communauté et qu'ils ont appliqué ce principe aux victimes de la lèpre et de la peste bubonique.
La plupart des pionniers adventistes étaient tout sauf des réformateurs de santé. En 1848, lors des congrès sur le sabbat, ils se retrouvaient encore souvent pour déjeuner autour de côtelettes de porc. Cette année-là, dans une vision, il a été montré à Ellen White que le tabac, le thé et le café étaient toxiques. Mais il lui a fallu plusieurs années avant de pouvoir en convaincre les membres d'église.
Le 6 juin 1863, Ellen White a reçu une vision portant sur la nécessité d'une réforme sanitaire. « J'ai compris, dit-elle, que prendre soin de notre santé était un devoir sacré dont il fallait faire prendre conscience à d'autres. » Deux ans plus tard, le 25 décembre 1865, elle a reçu une vision lui montrant que les adventistes du septième jour devaient créer un centre de santé. Un tel centre de santé, qui se trouvait à Battle Creek et qui a ouvert ses portes en 1866, a été le premier centre de ce qui deviendra plus tard un réseau de plus de 300 hôpitaux, cliniques et dispensaires gérés aujourd'hui par l'Église.
Que répondrons-nous à ceux qui prétendent qu'Ellen White a copié son message de santé sur celui d'autres réformateurs de santé de son époque? De récentes études sur le message de santé d'Ellen White ont révélé qu'il existait une énorme différence de qualité entre ses principes de santé et ceux que proposaient les autres réformateurs de santé de son temps. La science médicale moderne a confirmé l'exactitude d'un pourcentage élevé de ses principes de santé, alors que les sources qu'elle avait prétendument copiées contenaient un pourcentage peu élevé de principes valables.
Cette différence indique que Madame White possédait des informations sur la santé qui ne pouvaient provenir d'aucune source humaine disponible.
Le message de la santé est un merveilleux don de Dieu, mais comme tous ses dons, il peut être, et il a été, mal utilisé. Veillons à éviter que ce don ne se transforme pas en malédiction.
Eh bien, suivons donc ces instructions qui sont très importantes pour nous aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous terminons cette journée. Aborder le thème suivant du mercredi 18 mars 2009, et là, nous allons parler
des publications.
Les publications. D'après les Écritures, Moïse a été le premier à mettre par écrit les paroles de Dieu. La Bible est aujourd'hui le livre le plus publié et le plus lu de l'histoire. Nous allons voir où les Israélites devaient-ils inscrire les paroles de la loi et pourquoi ce commandement leur a été donné. Nous avons deux textes à vous proposer. Tout d'abord dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, les deux premiers versets.
Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés, continueront au verset 3.
Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel.
Dans l'Antiquité, une coutume très répandue au Proche-Orient voulait que l'on inscrive les dictons ou les déclarations importantes à des endroits bien en vue de la maison. Cela se fait toujours dans les pays musulmans et même en Occident. Au Royaume-Uni, comme en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, on peut également voir de telles inscriptions sur les maisons.
En Israël, on gravait la parole de Dieu sur les linteaux des portes pour garder constamment sous les yeux et à l'esprit ses instructions et ne jamais oublier de respecter ses commandements. Et nous allons voir maintenant quel a été le rôle des publications au début de l'histoire de l'Église adventiste.
L'œuvre des publications de notre Église n'émane pas de la sagesse humaine. En 1848, Ellen White a une vision dans la maison d'Otis Nichols à Dorchester, dans le Massachusetts. À la fin de cette vision, elle a dit à James « J'ai un message pour toi. Tu dois imprimer une petite revue et l'envoyer aux membres. Tu en feras d'abord un petit tirage. » Mais au fur et à mesure que les gens la liront, ils t'enverront de quoi l'imprimer et elle aura du succès dès le départ. de ce petit début, m'a-t-on montré, rayonneront des flots de lumière qui éclaireront le monde entier.
Des flots de lumière qui éclaireront le monde entier. Comment était-ce possible? Jésus allait bientôt revenir. Les adventistes étaient si peu nombreux et il n'y avait parmi eux ni personnes fortunées, ni grands érudits. Le monde était incroyant. Et pourtant, cette jeune femme annonçait là que les publications lancées par un mari sans le sou prendraient une telle ampleur qu'elles seraient lues dans le monde entier.
Il a fallu plus de 6 mois à James White pour parvenir à un tout petit début, c'est-à-dire pour faire imprimer, à crédit, 1000 exemplaires d'une revue de 8 pages. Aujourd'hui, l'Église adventiste du septième jour possède plus de 50 maisons d'édition et le message est imprimé et proclamé en plus de 220 langues.
Et oui, l'œuvre adventiste s'est développée. C'est ainsi que nous abordons maintenant la journée du 19 mars 2009. Et là, c'est un sujet important que nous allons voir aujourd'hui. Il s'agira de...
la théologie.
Tout au long de l'histoire biblique, Dieu s'est servi du don prophétique pour protéger son peuple des erreurs théologiques. Il a fait de même avec le ministère d'Ellen White. Dès les débuts de notre Église, Ellen White a dû combattre diverses formes de fanatisme. Certains prétendaient avoir atteint la perfection, d'autres déclaraient que l'œuvre était achevée, d'autres encore fixaient des dates pour le retour de Jésus.
Au cours de la crise suscitée par Kellogg's au tournant du siècle, ses conseils ont sauvé l'Église du panthéisme. En même temps, elle a fait presque à elle toute seule basculer l'Église d'une position semi-arienne, croyant selon laquelle Jésus ne serait pas Dieu, à une position trinitaire. Quand A.F. Ballinger a cherché à changer l'enseignement du sanctuaire, elle s'y est fermement opposée. Elle a également joué un rôle déterminant et permis à l'Église de ne pas sombrer dans le légalisme en défendant énergiquement, avec A.T. Jones et E.J. Wagoner, le salut par la foi en Christ sans les œuvres de la loi.
Après sa mort, ses écrits ont continué de guider l'Église. Plus récemment, ils ont même fourni des conseils clairs à propos du créationnisme, dont la théorie est attaquée au sein même de nos rangs. Voyons maintenant ce qu'enseigne l'Ancien Testament sur les origines de la vie humaine. Voici quelques textes, tout d'abord dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Continuerons dans Exode 20, versets 8 à 11.
Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Et enfin, un texte tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 42 et le verset 5.
Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les déploie, qui étend la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui la parcourent.
Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a créé la vie sur terre en 6 jours. Le mot hébreu traduit par « jour » dans Genèse chapitre 1, ce mot est « yom ». Dans les livres historiques de la Bible, chaque fois que ce terme est associé à un nombre, il renvoie toujours à une période littérale de 24 heures.
En se reposant le 7e jour de la semaine de création, Dieu a fait du sabbat le mémorial perpétuel de l'achèvement de son œuvre créatrice. En bref, on s'appuie sur une donnée biblique, immuable, en adhérant à une création accomplie en 6 jours littéraux, malgré l'opposition de ceux qui, même parmi nous, affirment qu'il en est autrement.
Et bien qu'Ellen White soit décédée depuis près d'un siècle, là encore, ces mots confirment avec force cette grande vérité biblique. Voici ce qu'elle dit. « Je fus transporté à la création, et il me fut montré que la première semaine, au cours de laquelle Dieu a créé en 6 jours, et s'est reposé le 7e, était une semaine ordinaire. »
Malgré le clair témoignage de la Bible, malgré les affirmations déterminées d'Ellen White, certains d'entre nous persistent à croire que Dieu a eu besoin de millions d'années pour créer la vie humaine. Comment éviter de tomber, nous-mêmes, dans ce piège vieux comme le monde?
Eh oui, encore des questions qui sèment la discorde parfois, parmi nous et parmi nos semblables. Nous arrivons au vendredi 20 mars 2009, et là, pour aller plus loin, nous avons encore plusieurs textes, plusieurs citations que nous allons vous proposer maintenant. En voici une première, elle est tirée d'un ouvrage qui s'appelle « Témoignages pour l'Église », ce sont des textes d'Ellen White, et voici ce qu'elle dit. « Un grand nombre des principes de santé que l'on trouve dans les écrits d'Ellen White étaient déjà enseignés d'une façon plus limitée par d'autres réformateurs de santé de l'époque. » Cependant, on trouve dans leurs enseignements de nombreuses erreurs ou affirmations extrémistes qu'Ellen White a évitées grâce aux instructions qu'elle recevait de Dieu.
Par exemple, Sylvester Graham et James Jackson, deux réformateurs de santé bien connus, conseillaient tous les deux, de ne pas manger de sel. Ellen White a pourtant écrit « J'utilise un peu de sel et je l'ai toujours fait ». Car loin d'être nuisible, le sel est en réalité excellent pour le sang.
Voici quelques-unes des erreurs enseignées au XIXe siècle et évitées par Ellen White. Ne pas se couper les cheveux, ne pas boire d'eau, seulement des jus de fruits, ne manger que le gras de la viande, ne pas se servir de savon, considérer l'embonpoint comme un signe de bonne santé, etc. Et voici, c'est une citation qui est tirée d'un auteur qui s'appelle Mac Mahon, Le prophète et ses critiques, c'est un texte en anglais.
À méditer, donc, pour ce vendredi, nous vivons à une époque scientifique où, pour de nombreuses personnes, la science est le seul mode d'accès à la vérité. Il est intéressant de noter que toutes les théories que nous enseignons, le retour de Jésus, le salut par la foi, la condition des morts, etc., une seule est scientifiquement véritable. Notre message de santé. Réfléchissons à tout ce que cela implique.
En tant qu'adventistes du septième jour, nous insistons, à juste titre, sur le fait que toutes nos doctrines sont tirées de la Bible, et de la Bible seule. Pourtant, si nous croyons dans le don de prophétie d'Ellen White, ne devrions-nous pas aussi faire confiance à ce qu'elle a écrit concernant la doctrine et en tenir compte? Comment trouver le juste équilibre dans notre façon d'utiliser ses écrits pour traiter des questions de théologie?
Comme dans la Bible, il y a, dans les écrits d'Ellen White, des choses que nous ne comprenons pas. Comment éviter de nous focaliser sur les difficultés et les problèmes pour ne pas passer à côté de l'ensemble de ces enseignements?
Oui, tous ces textes méritent de bien y réfléchir et, avec l'aide de Dieu, d'essayer de les mettre en application. Eh bien, c'est ainsi que prend fin cette semaine. C'est la 12e semaine qui se termine ainsi et nous donnons rendez-vous pour la 13e et dernière semaine de ce trimestre à la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.